Bonjour chers amis auditeurs. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec Marie-Madeleine. Bonjour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Bonjour, qui se sauve vite parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'elle a vu et dont nous allons parler tout de suite. Mais nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Duc. Bonjour Monsieur Duc.
Bonjour mesdames.
Monsieur Cubaigne, bonjour.
Bonjour mesdames.
Et bonjour Monsieur Humbert.
Bonjour Martine.
Donc je répète le trio de choc hein, pour cette église de Flaujac-Poujol. Alors nous étions, et nous y restons d'ailleurs, dans la chapelle, on va dire Saint-Joseph, Marie-Madeleine.
Oui, Saint-Joseph trône au-dessus de l'autel.
Voilà. Voilà. Alors nous venions de parler lors de la fin d'émission de la semaine dernière de ce magnifique vitrail de la Sainte Famille, mais de chaque côté de ce vitrail, il y a un chemin de croix qui a une petite particularité. Alors ce chemin de croix date à peu près de quelle époque ?
Au début du XXe siècle.
Oui, il est en plâtre sculpté.
Oui.
En plâtre, voilà. Les scènes sont très en relief et encadrées. De colonnettes.
Alors, par exemple, Marie-Madeleine, vous avez donc cette étape du chemin de croix qui est la numéro 14.
C'est la dernière, donc, et c'est Jésus mis au tombeau. Et donc, on y voit le tombeau en pierre dans lequel Nicodème et Joseph d'Arimathie vont mettre le corps de Jésus. Et derrière, nous voyons les saintes femmes, deux saintes femmes, dont Marie et une de ses sœurs, hein, Marie Salomé ou Marie Jacobée, etc. Voilà.
Alors, une petite particularité pour chacun.
Alors, chaque panneau.
Chaque panneau, hein, voilà.
Chaque panneau chaque station a été offerte par une famille de Flaujac.
Alors, j'ai pas pris au hasard ce panneau, Marie-Madeleine, puisque dessous, il y a marqué Fernand Brugidou. Alors, je crois qu'il y a un membre de la famille qui est présent, Monsieur Humbert.
Et oui, c'était mon grand-père.
Et voilà. Donc, chacun de ces panneaux porte un nom particulier, donc
là,
un nom d'une famille, voilà. Donc, monsieur, la famille Riols, la famille Blatt et Despaux.
Ça, c'était une ferme isolée à la Mongie.
Voilà.
C'est vers le Montal, là-bas.
Alors, monsieur Jean Berck et Marie Longjou, voilà, c'est Jésus remis à sa sainte mère. Voilà. Et donc, chacun des panneaux porte le nom d'une famille, comme nous disions tout à l'heure. Nous allons sortir de cette magnifique chapelle et nous allons vers la chapelle qui se trouve en face, qui est la chapelle dédiée à Sainte Marie, Mère de Dieu. Et là, nous passons et nous arrivons à la statue, qui est une statue de Saint Roch. Alors, elle a une histoire, cette statue de Saint Roch, monsieur Humbert.
Elle est venue de l'ancienne église qui était près du château et qui a brûlé. Et elle a suivi l'église puisqu'il fallait qu'elle vienne là. Mais il semblerait qu'elle a provoqué quelques querelles un petit peu entre les paroissiens de Rigal, qui faisaient partie de la burgade et qui auraient aimé la conserver pour eux.
Et voilà, querelle autour d'une statue. Marie-Madeleine, alors là, vous pouvez nous la décrire.
Alors, c'est une statue très, très particulière, qu'on appelle une statue monolithe, parce qu'elle est dans un seul bloc de pierre. Elle est sculptée dans un seul bloc de pierre. Donc, on y voit Saint Roch, qui est assis sur un rocher. À sa droite, il y a un petit ange à ses pieds. Et à sa gauche, un chien. Alors là, il faut repartir sur l'histoire de Saint Roch. Saint Roch est né au début du XIVe siècle à Montpellier. Et très tôt, il a eu une attirance pour aider les pauvres. D'ailleurs, il a fait partie du tiers ordre franciscain. Voilà. Et donc, il s'est délesté, si on peut dire, de ses biens pour les distribuer aux pauvres. Et ensuite, il est parti pour un pèlerinage à Rome. Et là, à Rome, alors c'était au temps de la peste noire, vers les années 1348-50. Et évidemment, la population a été décimée par cette peste noire, et lui a soigné les pestiférés. Et puis, à la porte de Rome, il se sent pas bien, et il s'isole dans une forêt, pensant y mourir. Et puis, finalement, il continue à vivre, mais il n'a rien à manger. Mmh. Et un chien, tous les jours, lui porte du pain. Et c'est ce chien que nous voyons sur cette statue. Mais ce pauvre chien, il a subi quelques accidents parce qu'il n'a plus que la mâchoire supérieure. Ce qui fait que nous ne voyons pas le pain qu'il tient dans sa gueule. Voilà. Et à l'origine, il devait tenir ce pain dans sa gueule. Voilà. Donc voilà l'histoire de Saint Roch. Donc il réchappe à la peste et il rentre à Montpellier où là, il ne se fait pas reconnaître. Et il va mourir vraiment dans l'extrême pauvreté. À l'âge de 30 ans.
Donc c'est une statue qui est peinte.
Qui est peinte, alors qui a été certainement repeinte relativement récemment. Hein. Alors Saint Roch porte une tunique bleue, vive, et une cape rouge, du pèlerin. Hein. Il devait y avoir peut-être des coquilles. Bon, les coquilles, c'est plutôt Saint-Jacques, mais le pèlerinage de Saint-Jacques. Mais enfin, là, alors maintenant, on lui a mis un bâton dans la main avec qui s'appelle le bourdon, hein, pour les pèlerins, avec une gourde, une petite gourde qui est faite dans une coloquinte. Et alors, la particularité de Saint-Roch, on le reconnaît parce qu'il soulève sa tunique et on y voit une plaie qui est un bubon de la peste. Voilà. Et l'ange qui est à ses côtés va le maintenir en vie, hein, faire continuer son œuvre pour les pauvres.
Oui, très, très jolie et très particulière statue qui nous a interpellés également.
Oui, et alors arrivée. Pour la dater, c'est très difficile, mais elle est au moins 17e siècle. Mmh.
Très bien, alors nous continuons, nous rentrons dans cette chapelle dédiée à Sainte Marie. Nous apercevons tout de suite le chemin de croix, bien sûr, et le premier, Jésus condamné à mort, c'est la paroisse qui l'a offert. On peut la décrire éventuellement, Marie-Madeleine, parce qu'elle est quand même, c'est particulier.
Jésus condamné à mort, oui, par Pilate, hein, oui. Qui est assis sur une sorte de trône, enfin une chaise curule, il est assis sur une chaise curule, mais sur déjà une estrade, hein, mm-hmm. il domine. Mm-hmm. Et il tend la main vers Jésus, qui est tenu par un soldat et un aide de l'armée, qui vont emmener Jésus, mm-hmm. pour être crucifié, mais avant martyrisé.
Mm-hmm. Et donc là, juste en bas de ce panneau, Jésus condamné à mort, il y a un autel et nous retrouvons la même facture que celui qui est dans le chœur. Je me trompe, Marie-Madeleine ?
Oui, c'est la même époque. C'est un autel en marbre 19e, toujours sur le même modèle, hein, avec la table d'autel soutenue par trois arcades pleines, et au-dessus, donc le tabernacle. Et au-dessus encore, la Vierge Marie, mais qui est différente. Hein, c'est une statue 19e, hein, mm-hmm. La Vierge Marie couronnée, avec tenant l'enfant Jésus. Voilà.
Avec un manteau bleu.
Avec un manteau bleu,
bien sûr.
Voilà, un manteau bleu avec des petits décors dorés, et en dessous, une robe rose. Mm-hmm.
Donc nous continuons le tour de cette chapelle, et bien sûr, nous arrivons à ce vitrail Notre-Dame
oui,
de Lourdes.
Comme c'est la chapelle Notre-Dame, eh bien, le verrier a représenté Bernadette devant l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Et là, c'est un don de la famille d'Allende. Voilà.
Et donc, le facteur est le même que le verrier est le même.
Oui. C'est le même. Alors, on va...
Nous approchons, bien sûr.
C'est un certain Gibert de Montauban qui a fait ce vitrail en 1890.
Oui, je pense que ça a dû être fait en même temps
dans
la chapelle Saint-Joseph.
C'est le pendant de la Sainte Famille en face.
Voilà. Alors, en redescendant nos yeux, nous apercevons un confessionnal, Marie-Madeleine.
Voilà. Un confessionnal en bois traditionnel, 19e, voilà, avec sa porte centrale dont la partie supérieure est ajourée, avec des petits barreaux. Et de part et d'autre, évidemment, les agenouilloirs pour les pénitents.
Et tout de suite, à la gauche de ce confessionnal, il y a ce qui était un orgue, un harmonium. Voilà. Nous sortons de cette chapelle dédiée à, bien sûr, Notre-Dame. Et tout de suite, à droite ou à gauche plutôt, quand nous sommes devant la chapelle, nous apercevons la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Ouais, Sainte Thérèse, là aussi statue très classique de Sainte Thérèse, avec une auréole sur laquelle est une inscription « Mon Dieu, je vous aime hein, ». Et elle tient un bouquet de roses sur la croix du Christ. Voilà. Donc elle est sur une sellette dont le cul, c'est le mot qu'on emploie, le cul de la sellette est formé de deux anges.
D'accord. Voilà. Alors tout de suite à la gauche de cette statue, il y a un autre vitrail, Marie-Madeleine.
Ouais, alors comme l'église s'appelle Saint-Martin, dans cette église nous avons plusieurs représentations de Saint-Martin. Voilà, donc ce vitrail qui représente Saint-Martin en soldat de l'armée romaine. Il vivait au IVe siècle en Gaule. Hein. Voilà, il était né en Pologne, en Hongrie exactement. Il était né en Hongrie et il est venu donc dans l'armée romaine, avec l'armée romaine en Gaule, dans la région de Tours. Et on connaît l'épisode très connu de son don, la moitié de son manteau à un pauvre. Hein, voilà. Mais là, dans ce vitrail, il est en pied et il tient une lance dans sa main droite et il est habillé à la romaine avec la tunique courte et le manteau rouge.
Voilà, et donc ça a été un don
de la paroisse.
De la paroisse, voilà. Et il y a des armoiries au milieu de ce bandeau qui dit que c'est la paroisse de Flaujac, et donc
oui,
le père André d'Agen qui était curé en 1889.
Mais, voilà. Mais les armoiries sont celles de Monseigneur Grimardias.
Voilà. C'est donc, ce que je voulais vous entendre dire, Marie-Madeleine.
Qui était l'évêque de l'époque hein, et qui a restauré la cathédrale en particulier.
Alors, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs pourquoi nous reconnaissons que ces armes étaient celles de Monseigneur Grimardias ?
Parce que, alors, pourquoi y a-t-il trois cornets ? Il y a trois cornets avec au centre une étoile. C'était ses armes, mais je n'en ai pas l'explication.
D'accord.
Et puis au-dessus, il y a une couronne. Une couronne comtale, je pense, voilà. Il était évêque de Cahors et ils étaient tous comtes et barons, etc. Donc, voilà.
Donc, à la gauche de ce vitrail dédié à Saint-Martin, eh ben, nous avons également un tableau.
Un tableau, voilà, qui est bien éclairé et qui représente donc le don de Saint-Martin, le don de son manteau, de la moitié de son manteau, à un pauvre en plein hiver. Et le pauvre n'est vêtu que d'un pagne, en partie déchiré, et il est porté par deux béquilles. Il ne doit pas marcher facilement, il est pieds nus, bien sûr, et le haut de son corps est dévêtu. Donc, Saint-Martin est sur son cheval, et il donne la moitié de son manteau, l'épisode est connu, parce qu'il ne peut pas donner l'entier manteau, puisque la moitié appartenait à l'armée romaine. Donc la partie qui appartenait à l'armée romaine, il ne peut pas la donner.
Mais on le voit avec son épée, d'ailleurs.
Il tranche le manteau. Oui, d'un coup d'épée.
Voilà. En dessous de ce tableau se trouve une autre statue.
Saint Antoine de Padoue,
voilà,
qui tient l'enfant Jésus. Donc Saint Antoine de Padoue, contrairement à son nom, était espagnol.
Alors,
il est mort à Padoue où il y a une basilique extraordinaire en marbre noir et blanc et l'intérieur est, est vraiment extraordinaire parce que tout est noir et blanc et on y voit quelques éléments du corps de Saint Antoine que je ne détaillerai pas ici parce que c'est assez morbide. Voilà.
Voilà, et au moment où vous parlez, Marie-Madeleine, nous entendons les cloches de l'église. Donc nous arrêtons quelques secondes pour les écouter. Voilà. Chaque église a son son de cloche, j'ai remarqué. Oui. Le son est toujours différent et au niveau des cloches. Alors, à ce sujet-là, M. Cubain, c'est vous qui vous occupiez de faire sonner les cloches.
Exact. C'était nous autres qui s'en occupait.
Voilà. Donc, vous veniez à quel moment? Et bien, à tous les moments?
Le matin, à l'Angélus, mm-hmm. à midi et le soir.
Oh, c'est formidable. C'était extraordinaire.
Oui. Trois fois par jour.
Voilà, et ça ne se voit plus maintenant, bien sûr.
Si, si, ça sonne le matin, oui. Ça sonne à midi et le soir.
Voilà, et ce que je dis, c'est que ce n'est pas vous maintenant qui le faites, puisqu'elles ont été électrifiées.
Et elles s'arrêtent le soir à 10h.
Ouais, à 22h.
À 22h.
D'accord, très bien. Formidable. Alors, à la gauche de ce tableau se trouve une porte. Une porte qui amène à la tribune qui est au-dessus. Et alors, Marie-Madeleine, si nous rentrons bien dans la nef, nous apercevons, alors je vais dire un mot, peut-être que ce n'est pas le bon, un oculus.
C'est un oculus avec un vitrail. Alors on va sortir les grands mots en forme de tondo, c'est-à-dire qui est rond. Hein. Voilà, il y a des tableaux qui sont des tondos. Et voilà, donc c'est un vitrail rond, tout simplement, avec le Christ en majesté sur son trône, assis, et qui bénit de la main droite, avec deux doigts levés et le pouce à côté, voilà. Mm-hmm. Et il tient un livre avec sa main gauche sur ses genoux.
La lumière et le soleil donnent sur cet oculus, et donc cela transmet la lumière et les couleurs sur le mur qui se trouve à droite de cet oculus, et c'est absolument superbe. Les couleurs ressortent très bien, ces couleurs de rouge, de bleu et de jaune. En bas de cette tribune se trouvent deux statues. À droite, Marie-Madeleine, je vous laisse en parler.
Eh bien, c'est notre saint local, Saint Jean-Gabriel Perboire, donc mort en Chine en 1840, martyrisé dans la province de Yuan, célèbre au XXIe siècle pour nous avoir amené la Covid. Voilà. Et de l'autre côté, donc, c'est Sainte Jeanne d'Arc, en armure, avec son épée, puisqu'elle a rétabli le roi Charles VII sur son trône, si on peut dire, ou elle l'a maintenu contre les Anglais, et morte sur un bûcher en 1430 quelque chose.
Voilà. Très bien, donc à gauche de cette statue de Sainte Jeanne d'Arc, donc nous continuons à voir bien sûr le chemin de croix, et nous tombons sur un autre vitrail,
donc qui fait pendant à celui de Saint-Martin, et c'est tout simplement Saint-Michel. Saint-Michel, chef des armées des anges, et qui se trouve ici représenté en armure également, avec un buste caparaçonné, si on peut dire, et l'épée, et puis ces deux ailes que l'on voit par derrière. Voilà. Et il terrasse le dragon, hein, puisqu'il a terrassé Satan, et il combat Satan avec son armée.
Alors, le don de ce vitrail a été fait par Monsieur de Flaujac, voilà, dont nous avons parlé, voilà, au début de la première émission.
Et nous retrouvons les armoiries de la famille Flaujac, donc avec la devise « Vis atque virtus », la force et la vertu.
Et nous continuons toujours notre tour par la gauche et nous apercevons à nouveau une représentation de Saint-Martin.
De nouveau, voilà, Saint-Martin en statue cette fois-ci, donc en plâtre peint, hein, comme on le faisait au XIXe siècle. Et là, il est représenté en évêque de Tours. Hein, et donc, il est debout, il a sa chasuble rouge ornée d'or, sa crosse d'évêque, et il bénit de la main droite. Alors je dis crosse d'évêque et là nous avons une représentation très fidèle à l'iconographie traditionnelle, puisque la crosse d'évêque, la crosse elle-même, est tournée vers l'extérieur, puisque l'évêque s'adresse au peuple de Dieu et il part vers l'extérieur pour évangéliser le peuple. Hein. Tandis qu'un abbé, qui peut être représenté de la même façon, a sa crosse vers lui, tournée vers lui, parce qu'il s'adresse à un espace fermé. Ses moines sont enfermés, sont sous la clôture. Donc sa crosse se tourne vers l'intérieur. Voilà, c'est un petit truc qu'il faut savoir quand on regarde une statue.
C'est très intéressant, voilà. Parce qu'effectivement, Monsieur Humbert, est-ce que vous le saviez ?
Non.
Non, mais vous ne le saviez pas. Non, voilà, donc nos auditeurs vont également apprendre cette petite distinction. Alors, en levant la tête, Marie-Madeleine, nous apercevons bien sûr le plafond de cette église. Est-ce que vous pourriez nous la décrire ? Elle est très lumineuse, hein,
oui.
Peinte
alors
en blanc.
Il y a deux travées plus le chœur.
Quel est le roulement au niveau des messes ?
Alors, le roulement se fait par alternance avec l'église de Saint-Cyrus. Elle a lieu une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, donc en alternance avec Saint-Cyrus, les mois pairs, Flo-Jacques Poujol, les mois impairs, Saint-Cyrus.
Ah oui, très judicieux pour pouvoir se rappeler.
Ça représente environ 5 messes dans l'année ici à Flo-Jacques.
Mmh. Il y a donc des enterrements.
Alors, en plus, il y a toutes les manifestations, obsèques, mariages, éventuellement baptême, qui se passe ici.
Donc c'est une église ouverte, enfin c'est une église qui vit quand même de toute manière. Peut-être moins que ce que vous pourriez espérer, mais...
Oui. Nous souhaiterions qu'il y ait davantage de paroissiens qui participent à la vie de cette église, voilà. Et j'en profite pour
lancer un appel
aux jeunes, et peut-être même aux moins jeunes, bien entendu, que nous les accueillerons avec plaisir dans cette église.
Eh bien écoutez, voilà. C'est dit dans cette émission, l'appel est lancé. Marie-Madeleine, auriez-vous un dernier mot à nous dire concernant cette église ?
Moi, je me suis régalée aujourd'hui à voir cette église parce que je ne la connaissais pas, puisqu'elle est fermée quand même très souvent. Hein, voilà. Et donc, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur cette église. Merci messieurs, parce que vous êtes l'église vivante.
Voilà, ben écoutez, Monsieur Duc, oui, vous avez quelque chose à rajouter.
Juste un dernier mot, il y a quand même d'autres manifestations qui ont lieu dans cette église, qui sont organisées par l'association Les Livres et la Culture, des concerts, de musique, voilà. Il y en a eu 2 ou 3 l'an dernier, avec le père Leclerc.
Le père Mathias Leclerc, oui.
Mathias Leclerc, oui, qui est venu faire... De concert.
Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, messieurs, dames, d'être intervenus au sein de ces 2 belles émissions que nous avons réalisées ici et enregistrées dans cette belle église de Saint-Martin de Flo-Jacques Poujol. Merci, monsieur Duc, qui nous a ouvert l'église, parce que vous êtes le détenteur de la clé. Voilà, ça c'est important.
Pas toujours.
Ah, voilà. Ouais. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est sûr que... Voilà. Merci, monsieur...
La relève est assurée.
Merci, monsieur Kubain.
Merci, mesdames.
Et merci, monsieur Humbert.
Merci à vous.
Et merci, Marie-Madeleine, bien sûr.
C'était un plaisir. Partagé.
Voilà. Mais écoutez, chers amis auditeurs, nous vous quittons là, dans l'église de Flo-Jacques Poujol, Saint-Martin de Flo-Jacques Poujol, avec quelques représentations de Saint-Martin à l'intérieur de l'église. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et donc à la semaine prochaine pour une autre église et un autre chemin vers une autre église et chapelle du Lot.